Bonjour Albine.
Bonjour.
Où est-ce qu'on va aujourd'hui en Namibie ? En Namibie, hein, bien sûr.
Alors, on va se promener un peu au-delà de la Namibie, parce qu'on va découvrir un caméléon qui voulait prendre le train.
Alors que c'est un pays où on peut prendre l'avion.
Plutôt les petits avions de brousse ou des lignes régulières régionales. Mais la Namibie fait une superficie d'une fois et demie la France, tandis que son nombre d'habitants est de 2 millions ou 2 millions et demi, je ne sais plus, mais dans cet ordre-là. Donc oui, les distances à parcourir se font souvent en avion.
Et les gens se répartissent plutôt sur la côte, plutôt...
Non, 30% de la population est dans le nord du pays agricole, qui nourrit tout le pays. Et une autre grande partie de la population à Windhoek, la capitale, qui est située à 2000 mètres d'altitude d'ailleurs. Quand on pense désert, on n'imagine pas forcément que ça se situe à 2000 mètres d'altitude. Donc la capitale Windhoek et puis son grand township Katutura abrite une grande partie également de la population.
Et les animaux, donc le caméléon, il est quand même originaire de Namibie. Il y a des caméléons en Namibie.
Ah, il y a des caméléons en Namibie, tout à fait. Pas qu'en Namibie, c'est un animal qui, dans beaucoup de mythologies, prend une signification très particulière.
Écoutons l'histoire du caméléon.
Vous voulez prendre le train. Théodore le caméléon languissait son vert et jaune vif au creux d'une roche percée du vent. Sifflant et fulminant, lent et patient, d'une couleur l'autre, Théodore rêvait aux vaches qui regardent passer les trains et jamais ne s'ennuyait. Ce n'est pas tant les verts pâturages, s'ayant à son teint reptilien, mais plutôt les wagons et la locomotive qui emportaient son imagination d'acrobate du désert. D'ordinaire solitaire et routinier, ce caméléon-là s'ennuyait ferme dans son désert, in the middle of nowhere, au dégradé d'orange, tantôt flamboyant, tantôt ocre de pierre, et de se lamenter. Mais à quoi donc me servent ces deux yeux merveilleux de panoramique sol-air ? Chasseur émérite à la tactique éprouvée du regard joint à la langue en accordéon, Théodore ne ratait jamais sa proie insectivore et ne pouvait guère compter sur le temps passé à s'embusquer pour briser la morosité de l'horloge. Pensez donc, le plus vieux désert du monde en avait vu d'autres, ce n'est pas un petit caméléon trépignant qui allait briser le silence lisse des dunes et la quiétude des reliefs empierrés. Pourtant, dans le Namaqualand, Théodore n'aspirait point à la vitesse aérienne qui reflète dans les hublots célestes d'un trait vif et zébré le paysage, résumé en une traînée disparate de couleurs indéchiffrables. Non, de ces voyages-là, le petit caméléon ne rêvait guère. C'est vers la locomotive fumante et bruyante que ses pensées l'amenaient, vers le bruit sourd et puissant, vers l'entraînement des roues, vers des ailleurs infinis, que son imagination puisait aux sources de ses souvenirs anciens. Car si Théodore était saisi par le virus nomade de celles et ceux qui, comme le disait Charles Baudelaire, les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir, c'est que sa naissance en ce monde austral fut mouvementée. Alors qu'il n'était encore qu'un œuf opaque, il fut emporté par un grand blond avec une brassée de grains de sable pour servir de souvenir d'un éphémère passage en ce lieu namibien et destiné à finir dans une bouteille en verre translucide exposée sur un bureau. Il avait échappé à ce sort funeste grâce au bon vouloir de la magicienne du Sossoflay. Se réchauffant rapidement dans la poche du visiteur, le Théodore en œuf éclot bien trop tôt et, porté par le souffle du vent, s'envola lors d'une escale en brousse sur l'aile d'un petit avion. Fort heureusement, sa queue, surnommée la cinquième main des caméléons, s'arrima fermement au fuselage en zinc et son baptême de vie fut aussi celui des airs. Bercé par le vrombissement des hélices du Cessna, il voyait tous les bimoteurs s'élancer tels des flamants d'acier, percer la vaporeuse brume légère pour regagner l'escale portuaire en eau profonde de Walvis Bay, tandis que lui prenait la route des hautes dunes qui s'élèvent à plus de 300 mètres de haut. Que serait-il advenu de Théodore sans le renfort de la magicienne ? D'elle, on ne savait presque rien, si ce n'est qu'elle logeait d'une 45, d'où elle observait, amusée, les touristes escaladaient à pas chancelant le sable érigé en montagne. Elle était amoureuse du ciel qui semblait signé par Turner. Fondu de rouge et rose, aux reflets ivoire et terre d'ocre, dans une brillance éclatante du jaune brûlant. Elle dansait d'un arrondi à l'autre, s'attardait parfois au pied de la seule couleur noire en ce règne minéral, celle du bois calciné, saisissant de contraste avec le blanc salin du Dead Valley. Elle connaissait les mythes et légendes attachés aux caméléons, des dogons du Mali leur prêtant des pouvoirs purificateurs et protecteurs, aux pygmées Mbuti leur attribuant des capacités à manipuler l'éclair. Elle prenait toujours soin d'eux, ce rien fragile à l'œil en forme de poire, souvent mal aimé quand ce n'est pas maudit en pays malgache, annonciateur de malheur. Alors la magicienne gonfla les voiles de sa robe pour souffler de la chaleur au petit caméléon sur l'aile de l'avion. Puis elle le lova au cœur de ses bras et lui raconta une histoire afin de le distraire. Elle lui parla d'un pays plus au nord, où vivaient des espèces animales ressemblant étrangement aux hommes, tout de noir velu, les chimpanzés et les gorilles. Des géants tout de douceur et de malice confondus. C'est ainsi que Théodore, absorbé et fasciné par ces destins primates, narré avec talent et poésie, oublia le danger de sa position inconfortable entre ciel et terre. Tout en plus, quand le frêle aéronef se posa, prit-il conscience des quelques turbulences secouant la carlingue et des contre-coups sur son corps gracile. C'est alors que, avec une infinie délicatesse, la magicienne s'envola au-dessus de la piste pour atterrir quelques centaines de mètres plus loin dans un désert de pierre aux cathédrales d'orgue géologique, là où les euphorbes mortels poussent, nourrissant les rhinocéros, seuls à pouvoir s'en substanter. Au Damaraland, l'avenir de Théodore s'annonçait paisible. Mais, du plus loin qu'il se souvienne, il n'oubliait pas les ancêtres humains et se mit en tête de les rejoindre en train. Mais pourquoi diable en train, se demandait la magicienne, veillant sur son protégé. Enfin, un vœu de caméléon, c'est sacré. L'embarquant à son bord, quelques années après qu'il a grandi, elle savait que seule l'Afrique du Sud permettrait à ce têtu de prendre un train et commença donc son périple en rejoignant la frontière namibienne de la côte ouest, limitrophe de la nation arc-en-ciel, là où au printemps le désert fleurit quand le ciel clément adresse ses remerciements de pluie. Et puis ensuite les étapes, Cape Town, Johannesburg, Johannesburg à Maputo, au Mozambique, puis les gares, Nampula, Kwamba au Malawi, Blantyre, Lilongwe, Zangwe, Chipoka, Salina, Meinji. Plus au nord, toujours plus au nord. Avec le secours des camions routiers quand les voies ferrées s'interrompaient, ce qui, en Afrique, est somme toute assez fréquent. Enfin Mombasa au Kenya, qui permet de rallier Kisumu et Kampala en Ouganda. Et bientôt le parc de l'impénétrable forêt de Bvindi, royaume du gorille des montagnes, prince pacifique et bienveillant de notre mémoire humaniste, pas si loin de Lucie, aux confins de la Rift Valley. Ce voyage avait épuisé le petit caméléon Théodore. Il s'endormit dans la main immense d'un King Kong débonnaire. Sa magicienne s'en alla, repartant dans ses terres de sable et sa dune 45. Que se racontèrent-ils ces gorilles et ce caméléon du désert? Nul ne saura jamais. Mais il se murmure que depuis l'arrivée d'un voyageur austral, lilliputien, aux couleurs changeantes, la population des gorilles de montagne, colosses aux pieds d'argile face aux braconniers, réduite à quelques centaines, dépasse dorénavant le millier.
On peut prendre le train partout en Afrique, parce que je sais que vous aimez les trains.
Alors, le train n'est pas le moyen le plus simple de voyager en Afrique et malheureusement, il y a très peu de possibilités réelles de prendre le train. Néanmoins, la ligne Nairobi-Mombasa fonctionne. Il y a surtout des trains touristiques de grand luxe, ce qui évidemment est un petit peu particulier. Il y a une île entre Swakopmund et Windhoek en Namibie et des trains circulent en Afrique du Sud dont il m'avait été fortement déconseillé de les prendre pour des raisons de sécurité, l'Afrique du Sud étant un pays compliqué dans les secteurs urbains notamment. Et pour les déplacements, certains bus circulent qui sont parfois plus sûrs.
Il y a vraiment des locomotives à vapeur encore, non ?
Je ne crois pas.
Oui, c'était pour le compte.
C'était pour le compte, oui. Donc, on a été voir les gorilles de montagne et j'ai eu la chance de les observer de très près puisque l'un d'entre eux s'est rapproché de moi. Ce fut un moment très, très émouvant. Mais ils sont effectivement dans une situation plus favorable qu'avant. Et leur population... notamment dans ce secteur, le parc de l'impénétrable forêt de Bindi, qui porte bien son nom, puisqu'il faut utiliser la machette pour s'y frayer un chemin, est à cheval entre l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo.
C'est là où Jane Fossey les observait aussi.
Jane Fossey, ouais. Oui, tout
Jane
à fait.
Fossey, pardon.
C'est là, ouais. Exactement. À l'époque, je suis allée par l'Ouganda parce que arriver par le Rwanda est plus facile dans la mesure où on est tout de suite en altitude. On n'a pas besoin de faire un trek pour rejoindre les lieux où ils sont positionnés. Mais à l'époque, le Rwanda avec un passeport français n'était pas des plus favorables. Voilà, cette population qui était de 600 gorilles seulement est remontée à plus du millier. En espérant que les luttes armées qui se déroulent en RDC avec la frontière du Rwanda ne viennent pas fragiliser cet espoir qui avait surgi de les voir de nouveau vivre en paix, puisque c'est un animal en fait qui est extrêmement doux et gentil.
Et apparemment, il tolère les touristes.
Alors, c'est intéressant parce qu'ils ont très bien organisé l'observation qui est limitée à une heure par semaine pour chaque groupe de gorilles. C'est plusieurs familles qui vivent en groupe et avec des consignes très strictes. Mais nous observons les consignes, c'est-à-dire rester à 7 mètres de distance et ne pas les regarder dans les yeux. C'est signe de provocation chez les gorilles. Mais quand les gorilles ont décidé, eux, de nous observer... Ça se complique, parce que pour ce qui me concerne, mais ce fut un moment extraordinaire et l'ambiance était tout à fait sereine. Les gorilles peuvent être sujets aussi à des mouvements d'humeur. Hein. Plus un animal est intelligent, plus il peut avoir des attitudes qui peuvent ressembler aux hommes. Et donc, il est descendu d'un arbre sous lequel j'étais assis. Il est venu me voir. Il m'a avec sa main appuyée sur l'épaule. Moi, j'avais la tête enfouie dans les chaussettes, évidemment, le regardant surtout pas dans les yeux. Je voyais les guides et les rangers plutôt amusés, donc je savais que l'ambiance n'était pas du tout inquiétante. Et en fait, il a penché la tête en la retournant complètement pour me regarder moi. C'est plus très bien qui observait qui, en fait.
Ah oui, formidable, en effet, ça devait être fort comme expérience.
Extrêmement fort.
Merci Albin.
Merci Véronique.